France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la bête de Jersey. Au début des années 60, un maniaque sexuel terrorise l'île anglo-normande de Jersey. Vêtu d'un long manteau recouvert de clous, d'une perruque et d'un masque en latex, il s'attaque à des femmes isolées les soirs de pleine lune. L'homme masqué s'en prend également à des enfants, en suivant à chaque fois le même scénario méthodique. Après avoir observé ses proies pendant des semaines, il s'introduit dans leur chambre, les ligote et les emmène dans un champ pour les violer, avant de disparaître dans la nuit. Pendant plus de 10 ans, l'enquête s'enlise. Il faut attendre un banal contrôle routier pour que la bête de Jersey, surnom qu'on lui a donné, dévoile son vrai visage. Celui d'un homme fasciné par la magie noire et le satanisme, persuadé d'être le disciple de Gilles de Rais, un baron du XVe siècle tristement connu, pour avoir torturé, violé et tué une 50aine d'enfants. Nos invités aujourd'hui, Dominique Baumard et Antoine Guerre. Ils ont enquêté sur les secrets de l'île de Jersey et en ont tiré une série documentaire intitulée « Le ventre de la bête » produite par Canal+. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Raphaël Pueyot. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Tenante. Réalisation, Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Premier août 1957, Jersey, île anglo-normande, lieu de résidence et d'exil de Victor Hugo de 1852 à 1855. Mais ce qui suit est moins poétique. Ce jour-là, des milliers de personnes sont réunies dans les rues de la capitale de l'île, Saint-Hélier, pour participer à la traditionnelle fête des fleurs. Sur Victoria Avenue, des chars bigarrés ornés de fleurs fraîches roulent au pas, escortés par une fanfare et des majorettes. Une fois le défilé terminé, l'une des 12 délégations se voit décerner le prix du plus beau char fleuri, sans oublier le titre de Miss Jersey. Puis vient le moment tant attendu, la bataille des fleurs. Les spectateurs endimanchés se jettent sur les chars, les pétales de rose volent dans les airs, et le temps d'un instant, les Jersiais célèbrent leur liberté retrouvée après des années d'occupation allemande. Il faut dire qu'ils sont farouchement attachés à leur indépendance. Pendant des siècles, l'île a été la cible des Vikings, des Normands et même des pirates. Jersey s'est aussi retrouvée au cœur d'un conflit sans fin entre la France et l'Angleterre, avant de voir débarquer en 1940 les soldats de la Wehrmacht. C'est pourquoi les Iliens ont tenu à maintenir au fil des siècles leurs propres lois et coutumes. Un système féodal établi au Moyen-Âge donc, qui leur a permis de conserver leur indépendance face aux grandes puissances européennes. Si Jersey, rattachée depuis 1204 à la couronne britannique, elle jouait en réalité d'une grande autonomie vis-à-vis de Londres, avec sa propre monnaie, son parlement, sa police et surtout sa propre fiscalité, très avantageuse pour les banques et les entreprises. Un système mis en place après la Seconde Guerre mondiale qui a permis de relancer l'économie balbutiante de l'île, jusque-là basée sur la pêche et l'agriculture. Résultat, à la fin des années 50, Jersey devient un paradis fiscal très prisé des retraités fortunés, mais aussi des touristes et des jeunes mariés en lune de miel. Une rivière miniature, préservée des désordres du monde, coincée entre la France et l'Angleterre, avec son aéroport, ses golfs, ses cottages fleuris, ses somptueuses demeures victoriennes et ses plages de sable fin.
Jersey est une île de surprise. Il y a la mer avec ses ravissantes petites criques et surtout sa beauté. Jersey est une île de fleurs. Dans le climat chaud entretenu par le Gulf Stream, poussent des palmiers et des eucalyptus, et ce n'est pas surprenant que Jersey ait des fleurs beaucoup plus tôt que l'Angleterre. Il y a beaucoup de bons hôtels renommés pour leur cuisine continentale. Les fermes sont belles et prospères. Comme on peut s'y attendre, Jersey est célèbre pour ses poissons et ses crustacés. Le spectacle des bonnes choses est une des joies de ce monde. Un des avantages d'être entouré par la mer, c'est qu'on y trouve des choses succulentes à volonté. Regardez tous les trésors de cette île verdoyante, préparés pour nous avec élégance et style. Et récompense suprême, une splendide assiette de framboises à la crème.
mais la poésie de ce récit va s'arrêter là. Nous sommes le 30 novembre 1957 à Saint-Hélier, au sud-est de Jersey. Ce soir-là, la capitale de l'île est plongée dans une épaisse brume. Les fleurs sont fanées, les touristes ont regagné le continent. Et dans les rues désertes du centre-ville, seuls quelques habitants sirotent une pinte de Guinness, attablée au pub du coin. À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de la ville endormie, une jeune femme de 29 ans guette seule l'arrivée du bus. Elle s'appelle Adèle Kudlip. Elle est infirmière à l'hôpital de Saint-Hélier et vient de terminer sa longue garde du week-end. Il est 21h15. Le bus doit arriver d'une minute à l'autre. Quand tout à coup, la jeune femme sent une présence dans son dos et surtout une odeur de moisi. Elle se retourne et là, un homme masqué se jette sur elle, la frappe violemment à la tête et traîne son corps inanimé dans un champ. Quand Adèle Kudlip reprend ses esprits, son agresseur est toujours là. Assis sur elle, il déchire ses vêtements et il la viole. Paniqué, le crâne maculé de sang, l'infirmière se débat de toutes ses forces. L'homme sort alors un couteau et menace de la tuer. Elle l'implore. Il hésite. Puis il range son arme et s'évapore dans la nuit. Le lendemain matin, l'agression est relayée dans la presse. Troisième attaque au couteau en moins d'un mois dans la vallée des Vaux, titre le Jersey Evening Post. Vaux comme pluriel de Val, hein, pas comme l'animal qu'on dévore avant qu'il n'ait le temps de vivre. Toujours est-il que 4 mois plus tard, en avril 58, toujours dans cette vallée des Vaux, autre viol, même scénario. À un détail près, cette fois le violeur a utilisé une corde pour étrangler et immobiliser sa victime. Dans les mois qui suivent, 4 autres femmes croisent la route de l'homme masqué, ou plutôt du sadique de la pleine lune. Car un détail retient l'attention des journalistes, chacune des attaques coïncide avec les soirs de pleine lune. Pour rassurer la population, la police se met alors à quadriller l'île, comme le raconte un ancien élu de Jersey, John Germain, dans la série « Le ventre de la bête ».
Tous les policiers, sans exception, se sont mobilisés et ont patrouillé à la recherche d'indices. 60, 80 policiers peut-être, dans des voitures de patrouille. Les gens étaient affolés. Il fallait trouver ce type. C'est pour ça qu'on a aussi demandé à la police honorifique de faire des rondes de nuit pour trouver une piste.
À la fin des années 50, Jersey possède en effet 2 polices. D'un côté, une honorifique, héritée du Moyen-Âge, de l'autre, une professionnelle, créée en 1952 sur le modèle britannique. C'est cette dernière qui, fort logiquement, enquête sur les crimes les plus graves, comme les meurtres. La police honorifique, elle, composée d'agents bénévoles élus pour 3 ans, s'occupe de la petite délinquance. Un système féodal qui ne manque pas d'attiser les rivalités, d'autant que chacune des 12 paroisses possède sa propre force honorifique. Avec la professionnelle, ça fait donc 13 polices différentes à Jersey, pour une île de 16 km de long sur 8 de large qui compte à peine 60 000 habitants. Autre particularité, pour chaque arrestation et avant d'ouvrir une enquête, les policiers professionnels doivent obtenir l'autorisation d'un policier honorifique, qui doit ensuite venir taper sur l'épaule du suspect avec un bâton. Oui, une tradition héritée de l'époque médiévale qui ralentit évidemment les enquêtes de la police professionnelle, vassalisée aux ordres d'agents qui n'ont reçu aucune formation. Dernier signe particulier dans cette usine à gaz, l'absence de police scientifique et surtout, l'amateurisme des honorifiques, incapables de figer une scène de crime ou de prélever des empreintes. Il leur arrive même d'organiser des reconstitutions quelques heures seulement après les faits, accompagnés par des badauds qui piétinent les lieux. En d'autres termes, à Jersey, on procède de la même manière depuis des siècles, qu'il s'agisse d'un viol ou d'un vol de légumes, comme en témoigne l'interview de cet ancien policier honorifique.
Quand un vol se produit, des légumes par exemple, tu sais assez vite qui peut en être l'auteur. Tu penses tout de suite à un tel ou un tel. Et 9 fois sur 10, tu as raison. Je connaissais tout le monde dans un rayon de 5 km. Je savais s'ils étaient mariés, s'ils avaient des enfants, tout.
Entre 1957 et 1960, à cause de l'amateurisme des policiers honorifiques et du manque de coopération entre les différents services, les viols du sadique de la pleine lune ne font l'objet d'aucune enquête approfondie. Les policiers ne font même pas le lien entre les attaques. Il faut dire que les agressions sexuelles n'intéressent pas grand monde à l'époque. Elles sont même taboues, si bien, ou plutôt si mal, que certaines victimes se taisent et ne portent pas plainte. Et quand elles le font, leur dossier prend la poussière sur le bureau des policiers honorifiques. Quant au violeur, eh bien, il prend confiance et affine son mode opératoire, grisé par ce sentiment d'impunité et de toute puissance. Le 14 février 1960, le soir de la Saint-Valentin, Jersey s'enfonce un peu plus dans l'horreur. Cette nuit-là, dans une maison isolée à l'est de l'île, un petit garçon dort paisiblement dans son lit, bercé par les clapotis de la pluie qui tombe sur le toit. Quand tout à coup, il se réveille en sursaut. Une main gantée lui enserre le cou. Alors il veut crier pour réveiller ses parents qui dorment dans la chambre d'à côté. Mais son agresseur se penche sur lui, le bâillonne, et lui chuchote à l'oreille. « Tu sais, j'ai déjà tué. Alors si tu cries, je tue ton père et ta mère. » L'homme prend ensuite le temps de lacer les chaussures de l'enfant. Il lui ligote les mains, puis le met sur son dos et descend dans le jardin par la fenêtre grâce à une échelle qu'il avait posée là. Une fois arrivé dans un champ, il dépose l'enfant sur le sol, lui retire son pyjama et le viole. Puis, comme si de rien n'était, il le ramène dans son lit. Le lendemain matin, l'enfant raconte tout à ses parents. Sa mère pense d'abord à un cauchemar. Mais quand elle découvre de la boue sur son pyjama, elle s'effondre en pleurs et prévient la police. Face aux enquêteurs, le garçon donne de précieux détails sur son agresseur. Un homme d'une quarantaine d'années, des mains rugueuses, un long manteau noir, une cordelette blanche en guise de ceinture et surtout, une odeur de moisie, la même odeur décrite par les autres victimes. Détail glaçant, l'enfant dit avoir croisé le regard du violeur à travers le faisceau de sa lampe torche. L'homme portait une perruque, de grands sourcils blancs et un masque en latex couvert de cicatrices. Le même masque blanc qui sera utilisé quelques années plus tard dans le film « Massacre à la tronçonneuse ». Et puis un dernier élément retient l'attention des enquêteurs. Sur le torse de l'enfant, il découvre des griffures étranges, nettes et parfaitement parallèles. Comme si l'agresseur avait voulu signer son crime. Dans les mois qui suivent, les viols de femmes et d'enfants se multiplient. Et dans la presse, le sadique de la pleine lune hérite d'un nouveau surnom, la bête de Jersey. Le croque-mitaine n'était qu'une légende, qu'un conte pour effrayer les enfants. À Jersey, le conte est devenu réalité. Alors, au début des années 60, l'île est prise d'une psychose collective. Les Jerseyais s'espionnent entre eux, certains vont dormir avec un revolver sous l'oreiller. Quant aux journalistes britanniques, ils donnent un retentissement international à cette affaire.
Je me tiens au cœur d'une zone qui couvre presque tout l'est de Jersey. Une zone où pas moins de 13 agressions sexuelles ont été commises sur des enfants et des jeunes filles ces 4 dernières années. Des agressions qui ont laissé dans leur sillage un climat de terreur et d'effroi. Existe-t-il un lien entre tous ces événements? C'est ce que les policiers tentent d'établir.
En avril 1961, juste avant le coup d'envoi de la saison touristique, un comité de défense se réunit en urgence à Jersey sous la pression du gouvernement britannique. Objectif, capturer la bête au plus vite pour protéger l'image de l'île, un paradis fiscal et touristique qui accueille chaque année des milliers de vacanciers, mais aussi des entreprises et des banques, soucieuses évidemment de conserver leur anonymat. Décision est donc prise de faire appel à Scotland Yard, l'élite de la police britannique.
Who has dressed you in strange clothes of sand? Who's taken you far from my land? Who has said that my sayings are wrong?
your face, given your meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Does it now seem worth all the color of skies to see the earth through painted eyes, to look through panes of shaded glass, see the stains of winter's grass? Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name, or with silver spoons and colored light, will you worship moons and winter's night? Clouds of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la bête de Jersey.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le 25 avril 1961, le détective Jack Manning débarque sur l'aéroport de Jersey entouré de ses adjoints. Alors cet homme-là, c'est un CV long comme le bras. Après avoir démantelé le gang de Soho, il a retrouvé les bijoux volés de la princesse Alexandra. Rien que ça. Dès le lendemain de son arrivée à Jersey, il organise une conférence de presse. Face aux journalistes, il dresse le profil de la bête. Le violeur s'attaque principalement à de jeunes garçons. Il penche donc pour un homosexuel refoulé. Toutes les victimes décrivent une odeur de moisi, donc ça doit être un paysan. Et puis il y a cette parfaite connaissance des lieux qui permet à la bête de s'évanouir dans la nature avant même l'arrivée de la police. Alors Manning en est convaincu, c'est un homme du coin, un solitaire qui peut sortir la nuit sans éveiller les soupçons de ses proches.
One man. Un homme, un détraqué, connaît très bien cette zone. Il sait ce que beaucoup d'habitants de l'est de l'île savent, qu'en coupant à travers champs, qu'en voyageant à la manière d'un corbeau, il est possible de parcourir de grandes distances rapidement. Il sait où se cacher pour observer les maisons où il a prévu de frapper. Après des semaines passées à épier ses proies, il passe à l'attaque quand les lumières sont éteintes, quand il n'y a plus aucun mouvement.
Dans la foulée de cette conférence de presse, Manning réunit les policiers honorifiques. Leur mission est simple, se cacher la nuit dans les champs pour surprendre la bête. En parallèle, il interroge les délinquants sexuels, et en particulier les homosexuels, comme si l'un faisait partie de l'autre. Il lance aussi un appel à témoins dans le journal local, avec à la clé une récompense de 1000 livres. Mais rapidement, Manning se heurte à plusieurs obstacles. Il y a d'abord le mur du silence. Les Jerseyais tiennent à leur indépendance. Ils ne voient donc pas d'un bon œil l'ingérence de Londres. Alors, ils refusent de coopérer avec ce détective venu d'ailleurs. Deuxième obstacle, l'amateurisme des policiers honorifiques. On l'a dit, en voici la preuve. Un soir, alors qu'il fouille un champ à la recherche d'indices, Manning est mis en joue par l'un d'entre eux qui l'a pris pour la bête. Pour ne rien arranger, la BBC diffuse des images accablantes. On y voit des policiers honorifiques dans une voiture en train de trinquer de se marrer. Alors que le détective Manning est dans l'impasse, moqué par la presse et désavoué par les habitants, une rumeur vient relancer l'enquête. Depuis plusieurs jours, la police reçoit des courriers anonymes. Et tous désignent un homme, Alphonse le Gâtelois. Il faut dire que cet ouvrier agricole de 45 ans fait figure de suspect idéal avec sa barbe blanche et ses cheveux hirsutes. De surcroît, il habite seul dans une cabane délabrée tout proche du lieu des agressions. Et partout où il passe, il laisse une odeur de moisi, l'odeur de la bête. Ça fait beaucoup, surtout lorsqu'on veut très vite trouver un coupable. Mais le 3 mai 61, après avoir passé toute la nuit au commissariat, Alphonse est relâché, faute de preuves. Mais pour ses voisins, il n'en reste pas moins un homme à abattre, comme en témoigne son avocat dans le documentaire « Le Seigneur des Écréous ».
Il y avait des hommes dans sa paroisse natale qui pensaient que c'était lui, parce qu'il aimait bien aller dans les petits sons et les roues dans la nuit, tout seul. Il avait aussi des connaissances, des médecins naturels, des herbes, et tout ça était des choses de sorcières. Et Alphonse était un homme solitaire, peut-être un peu étrange.
Quand il revient chez lui, Alphonse est visé par des jets de pierre. Et dans la rue, on l'insulte, on lui crache dessus. Un soir, on tente même de mettre le feu à sa maison. Alors, pour échapper à cette chasse aux sorcières, il prend une décision radicale, l'exil. Sur les conseils de son avocat, Alphonse met cap à l'est, direction une Atlantide oubliée, balayée par les vents, l'archipel des Écréous. Théâtre de plusieurs naufrages, les Écréous sont des cailloux mauvais, pour reprendre les mots de Victor Hugo. Des cailloux perdus entre Jersey et les côtes normandes, très difficiles d'accès, avec leurs tourbillons imprévisibles, leurs récifs acérés. À marée basse, des îlots reliés entre eux par des bandes galées forment un plateau long de 3 km. À marée haute, ce paysage lunaire est englouti par les flots. Seuls 5 crochets résistent aux assauts de l'océan. Sur l'un d'entre eux, quelques cabanes de granit se serrent les unes contre les autres, composées et posées sur la mer. C'est ici, dans ce village fantôme, qui servait jadis de refuge à des contrebandiers et des pêcheurs égarés, qu'Alphonse pose sa valise. Sans eau ni électricité, il se contente d'oiseaux, d'algues et de crustacés. Il se lève quand le jour se lève, puis s'endort avec lui, bercé par les vagues, avec pour seule compagnie le crépitement du poêle bois. Rapidement, des pêcheurs se prennent d'affection pour Alphonse. Ils lui apportent des vivres et lui offrent même une radio. Des journalistes font eux aussi la traversée pour rencontrer l'ermite des Écréous, ce Robinson des temps modernes.
Le meilleur de son vin, pour venir mon chagrin.
Vous avez du chagrin, Alphonse?
Ah, pas le moment, mais c'est pas souvent.
Et vous vous ennuyez pas tout seul?
Non, je m'ennuie pas tout seul. Puis quand il y a du monde ici, c'est une occupation sérieuse à faire la garde.
Et vous aimez bien qu'on vous rende visite quand même?
Ah oui.
Vous aimez bien parler avec les gens?
C'est mieux que les poissons.
Le 5 juin 1961, 6 semaines après son arrivée, Manning est remercié. À Jersey, les viols ont cessé. Les habitants tiennent leurs coupables. L'île n'a donc plus besoin de Scotland Yard. Mais avant son départ, le détective rend un rapport très critique sur la police honorifique. Un document qui ne sera jamais publié. Censuré par l'élite locale, les Iliens sont bien trop fiers pour reconnaître leurs erreurs. Il est vrai que pendant 2 ans, les viols s'arrêtent. L'ombre de la bête s'éloigne peu à peu. Mais la quiétude est de courte durée. Au printemps 63, les attaques reprennent. Le 19 avril, un petit garçon de 9 ans est violé dans un champ. Le lendemain, l'affaire, pourtant, ne fait pas les gros titres. Non, la police pense à un copycat, à un imitateur. Mais 6 mois plus tard, autre viol et même scénario. Et cette fois, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence, la bête est bien de retour. Quant à Alphonse le Gâtelois, il est définitivement innocenté. Scotland Yard est de nouveau appelé en renfort. Le matin du 4 avril 64, les détectives James Axon et Leslie Alton débarquent à Jersey. Dès leur arrivée, ils reprennent l'enquête à zéro en commençant par un survol de l'île pour cartographier les lieux. Puis ils vont à la rencontre des témoins et des victimes à la recherche de nouvelles pistes. La nuit, ils partent également sur les sentiers. Pendant des heures, tapis dans l'ombre, ils observent les maisons visées par la bête. Et il s'agit pour les policiers de se mettre dans la peau du violeur, apprendre à penser comme lui. Après plusieurs semaines d'enquête, les deux enquêteurs en sont convaincus. L'homme masqué n'est pas une bête solitaire, non, c'est un père, un frère, un homme inséré dans la communauté. Dans les colonnes du Jersey Evening Post, Scotland Yard lance un appel à la population. Une femme, une sœur, c'est forcément quelque chose, s'indigne détective. Un homme ne peut pas quitter le domicile familial dans la nuit et revenir au petit matin avec des vêtements couverts de boue sans que personne ne s'en aperçoive. Quelqu'un a peur de parler, conclut-il. Jersey se transforme alors en Cluedo géant. Et chacun y va de sa théorie. Selon plusieurs habitants bien informés, la bête serait le fils d'un homme politique influent. D'autres penchent pour un notable ou un policier. Mais alors qu'ils sont dans l'impasse, les hommes de Scotland Yard font une découverte qui va relancer l'enquête, comme le raconte le détective Leslie Alton dans le documentaire « Le ventre de la bête ».
Pour la première fois, on a réussi à trouver des empreintes digitales et palmaires. On a organisé une réunion entre la police honorifique, la police des États et les autorités jerseyaises. Et on leur a expliqué qu'il fallait recueillir les empreintes de tous les hommes de chaque paroisse.
L'opération est titanesque. Il faut collecter des dizaines de milliers d'empreintes qui sont ensuite envoyées en Angleterre pour être analysées manuellement. Or, et malgré les moyens considérables déployés par la police, les analyses ne donnent rien. Et à la fin de l'année 64, les détectives de Scotland Yard sont rappelés à Londres. Dans leur rapport, ils isolent 7 suspects, 7 hommes qui ont tous refusé de donner leurs empreintes, un élément très important pour la suite. 2 ans plus tard, le 10 août 66, alors que le commissariat de Saint-Hélier est en effervescence après un nouveau viol, les policiers reçoivent cette lettre signée de la main de la bête.
Je crois qu'il est temps de vous dire que vous perdez votre temps. Vous ne m'attraperez jamais. Mais je suis fair-play et je tiens à vous laisser une chance. La vie ne m'a jamais trop donné de plaisir. J'ai donc bien l'intention de me rattraper. Laissons la lune briller de 1000 feux en septembre, car cette fois-ci, tout doit être parfait. Voyons si vous pouvez m'attraper.
Tranquille la bête, qui finalement ne met pas son plan à exécution. Et pendant 6 ans, elle ne fait plus parler d'elle. Jusqu'à ce soir pluvieux d'août 70. Cette nuit-là, un enfant est violé dans la vallée des Vaux, là où tout a commencé, 13 ans plus tôt. C'est la 24e agression de la bête. Et c'est aussi la dernière. Car un an plus tard, la chance va enfin sourire aux enquêteurs. Le 10 juillet 71, 2 policiers professionnels patrouillent le long de la côte. La suite, c'est un journaliste de la BBC qui la raconte.
Lors d'une patrouille de routine, les agents Riceboro et McGinn ont vu une voiture brûler un feu rouge sur la route du fort et se sont lancés à sa poursuite. À plus de 120 km/h, le chauffard a fini sa route dans un champ de tomates. Les policiers ont d'abord pensé à une simple infraction routière, jusqu'à ce qu'ils examinent des vêtements. Des vêtements qu'une fois placés sur un mannequin allaient faire la une des journaux, un manteau avec des épaulettes cloutées, des bracelets blancs et noirs avec des clous fixés de part et d'autre, et cachés dans la doublure du manteau, un masque en latex.
Le lendemain, le visage du chauffard est à la une du Jersey Evening Post. Son nom, Edward John Louis Pennell, un maçon de 46 ans qui habite avec femme et enfants dans un petit hameau bucolique à l'est de l'île. Dans le coffre de sa voiture, les policiers tombent sur le kit du violeur, une lampe torche, des gants en cuir et une cordelette. Sur les bracelets cloutés de Pennell, il retrouve aussi du sang humain, ce qui permet d'expliquer l'origine des mystérieuses griffures laissées par la bête. Un dernier élément achève de convaincre les enquêteurs. Les empreintes digitales. En 64, souvenez-vous, 7 suspects avaient refusé de donner leurs empreintes. Eh bien, Pennell était l'un d'entre eux. À l'époque, sa maison avait été perquisitionnée à plusieurs reprises, comme les autres, mais en vain. Or, cette fois, les policiers vont faire une découverte capitale. Après plusieurs jours de recherche, ils découvrent en effet une pièce secrète cachée derrière une armoire. Dans une alcôve, Pennell a aménagé un hôtel. Sont disposés une épée, une croix, un calice en or, mais aussi des photos des maisons visées par la bête. Pour compléter sa panoplie du parfait sataniste, Pennell a accumulé dans une bibliothèque des livres sur les sciences occultes et notamment sur un personnage bien connu de l'histoire de France, Gilles de Rais.
Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc avec qui il prit Orléans aux Anglais, chevalier héroïque, maréchal de France, Gilles de Rais reste avant tout l'un des plus grands criminels français. Avant d'être arrêté puis brûlé en 1440, il tortura, viola et tua plus de 300 jeunes garçons. Aujourd'hui, tous ces meurtres font qu'on reconnaît en lui le modèle de Barbe Bleue ou l'ogre des contes de Perrault et que nul enfant de la région n'ignore l'histoire de Gilles de Rais.
Initié par sa mère à la sorcellerie quand il était enfant, Pennell est persuadé d'être le descendant du baron sataniste. Face aux enquêteurs, il l'appelle même fièrement « maître ». Avant de quitter les lieux, les policiers font une ultime découverte. En ouvrant un tiroir, ils tombent sur des cassettes numérotées sur lesquelles Pennell a enregistré lui-même des comptines pour enfants. L'une d'elles raconte, par exemple, la lente agonie d'un petit garçon qui se fait picorer à mort dans un poulailler. À Jersey, une question est sur toutes les lèvres. Comment se fait-il que la femme d'Edouard Pennell n'ait rien vu pendant toutes ces années ? Réponse de l'intéressé dans une interview donnée à la BBC.
Avez-vous pensé un seul instant que ce pourrait être lui, l'auteur de toutes ces agressions ?
Mon Dieu, non, non. L'homme que je connaissais ne pouvait pas faire de mal à un enfant. Il était capable d'attraper un oiseau à pleine main, un oiseau endormi qu'il remettait dans son lit. J'avais l'habitude de lui dire « Prends Andrew et les enfants avec toi et montre-leur ce que l'on peut faire avec un oiseau. »
Le 29 novembre 1971, peu avant midi, le verdict tombe. Pennell est condamné à 30 ans de prison. Après être resté mutique pendant 5 jours d'audience, la bête laisse éclater sa colère et assène un coup de pied vengeur au visage d'un enquêteur. Dans sa plaidoirie, son avocat avait déclaré « Il n'y a pas eu de brutalité extrême envers les enfants et, dans les cas de sodomie, la pénétration a été minime. Malgré les menaces de mort, aucune blessure permanente n'a été infligée aux victimes. » 20 ans plus tard, en 1991, Pennell est libéré pour bonne conduite. Il tente de refaire sa vie à Jersey, mais il est rapidement ostracisé par la population, comme Alphonse le Gâtelois l'avait été 30 ans plus tôt. Le 29 juillet 1994, la bête est foudroyée par une crise cardiaque à l'âge de 69 ans. Ses cendres sont dispersées au large des côtes britanniques sur l'île de Wight. Voilà. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en 2008, le nom d'Edouard Pennell refait surface. Des ossements ont été découverts dans les caves d'un ancien orphelinat de Jersey, le manoir du Haut de la Garenne.
Aux abords de l'ancien orphelinat, d'immenses tentes ont été montées par la police pour faciliter les fouilles. Après l'exhumation d'un premier crâne d'enfant samedi, les découvertes macabres pourraient se succéder dans ce que la presse britannique appelle déjà l'orphelinat de l'horreur. En novembre dernier, d'anciens pensionnaires avouent avoir subi des violences sexuelles et de mauvais traitements dès les années 60 et jusqu'à la fin des années 80. Des premières révélations qui déclenchent une avalanche de témoignages.
C'était un paradis pour les pédophiles. J'ai eu à porter ce fardeau pendant des années parce que personne n'a jamais voulu m'entendre.
En tout, près de 200 victimes présumées se sont manifestées. La police enquête sur 40 suspects, mais beaucoup d'autres seraient morts depuis. La presse locale n'a pas manqué de rappeler que la bête de Jersey, un pédophile condamné pour une dizaine de viols dans les années 60, fréquentait régulièrement ce lieu.
Pennell aurait-il fait d'autres victimes ? Voilà les questions que se posent les centaines de journalistes réunis devant l'orphelinat. Alors rapidement, les langues se délient sur l'île. D'anciens pensionnaires racontent avoir croisé Pennell dans les dortoirs du Haut de la Garenne, mais aussi à la Préférence, un établissement dirigé par sa propre femme, Joanne. Les enfants l'appelaient même affectueusement Oncle Ted. Des photos sont aussi exhumées par la presse et on y voit Pennell déguisé en Père Noël entouré par des grappes d'enfants. Robert Andrews est l'un d'eux. 40 ans plus tard, il n'a rien oublié des sévices que lui a infligé Pennell à l'orphelinat de la Préférence.
Malheureusement, j'ai été abusé par Edouard Pennell. La nuit, j'étais dans mon lit. J'étais terrifié, en position fœtale. parce que j'entendais sa voix. Je me recroquevillais, me mettais en boule, et je priais pour qu'il ne vienne pas vers moi. C'est l'échec d'un système, celui des foyers. Ils n'ont vraiment pas été à la hauteur.
Dans la foulée de ce discours polémique, les résultats du laboratoire de Scotland Yard tombent. Le crâne d'enfant retrouvé dans la cave de l'orphelinat était en réalité une noix de coco. En quelques semaines, l'affaire du haut de la Garenne fait donc pchit. Le directeur d'enquête et le chef de la police sont limogés, les journalistes s'en vont et la vie reprend son cours à Jersey. 9 ans plus tard, les conclusions d'une vaste enquête indépendante sont publiées. Si des centaines d'enfants ont bien été abusés et maltraités pendant des décennies dans les orphelinats de Lille, si certains pensionnaires ont mis fin à leur vie après des années de violence, aucune preuve ne permet d'accréditer la thèse des meurtres d'enfants et aucune autre ne permet de relier Édouard Penel à cette affaire. Le 3 juillet 2017, face à ce rapport accablant, le chef du gouvernement de Jersey tient à prononcer ces mots en écho aux centaines de vies gâchées, de vies englouties par des années de silence et d'incompétence.
Trop souvent, on n'a pas cru les enfants. On a préféré taire des vérités dérangeantes parce que c'était la chose la plus facile à faire. Je suis sincèrement désolé. Nous n'avons pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Les gens se sont plus préoccupés du statu quo, de la tranquillité de leur vie, que des enfants.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la bête de Jersey. Nos invités Dominique Baumard et Antoine Guerre. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes les réalisateurs de la série documentaire Le Ventre de la Bête, diffusée sur Canal+. C'est le résultat d'une enquête de 6 ans sur la bête de Jersey, mais aussi et surtout sur la défaillance de la police et des orphelinats de Lille dans l'affaire du Haut de la Garenne. On va y revenir avec vous, notamment cette histoire de crâne. Antoine Guerre, on en parle quand vous parlez de cette affaire aux gens de Jersey aujourd'hui. Je crois que la dernière fois que vous y êtes allé, c'était en 2021. C'est hier. On a envie d'en parler ou surtout pas.
L'histoire de la bête de Jersey est devenue de manière un peu triste, mais un peu plus folklorique, parce qu'il y a un peu de temps qui est passé. Mais clairement, c'est quelque chose qui a traumatisé Lille.
Il y a des témoins qui vous ont dit non, on ne participe pas à votre reportage, on ne répond pas.
Y en a beaucoup. Après, il y en a beaucoup qui, malheureusement, sont morts, sont tombés dans l'alcool, dans la dépression, parce que concrètement, c'est ça les conséquences d'abus non traités sur des enfants pendant des décennies. C'est ça, c'est des morts, des gens qui sont complètement ostracisés. Donc il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas pu interviewer. Et puis il y a des gens, des politiciens, des policiers qui ne voulaient pas remettre une pièce dans la machine parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir dans cette histoire.
Dominique Baumard, Penel a été condamné pour 13 viols, mais la police lui en attribue près du double. Je rappelle qu'il a sévi entre 1957 et 1971, c'est long. Alors, comment expliquer une telle impunité pendant autant d'années, malgré l'intervention de Scotland Yard, l'élite de la police britannique ?
Il y a un vrai problème systémique de la police à Jersey. Et cette police honorifique, elle a des vertus, que c'est une sorte de police de proximité. Mais elle a un grand défaut, c'est que concernant toutes les affaires de mœurs, les policiers connaissent tout le monde. Et donc, ils ont arrêté Penel plusieurs fois. Mais c'était un ami de la police, on se dit forcément que le monstre, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Ça rappelle le violeur de la Sambre, ça, c'est exactement le même scénario.
Ouais. C'est ça. Et donc, il y a un vrai problème de police, y compris de justice à Jersey, qui n'est jamais questionné, parce que c'est un paradis fiscal, et qu'un paradis fiscal a besoin de stabilité pour fonctionner, on ne peut pas remettre en cause les institutions comme ça.
Antoine Guerre, est-ce que Jersey a tiré les leçons des ratés dans l'enquête sur la bête de Jersey ? Est-ce qu'elle a réformé sa police honorifique ?
Il n'y a pas eu de réforme majeure. D'ailleurs, on a tourné une séquence qui est une séquence réelle, très documentaire, et qui fait peut-être même plus fiction que toutes les séquences fictionnelles qu'on a tournées, avec deux policiers honoraires actuels qui nous montrent leur paroisse et qui sont hyper fiers de nous montrer leur veste, le petit loquet sur la porte qui prouve la sécurité, le calepin dans lequel tout est noté, qu'ils ne veulent pas nous montrer, qui est absolument grotesque et qui montre que malheureusement pas beaucoup de choses ont changé. Et surtout, bah, nous, c'est le gros de l'affaire sur lequel on s'est intéressé, mais les policiers anglais qui sont arrivés à la tête de la police professionnelle à Jersey au début des années 2000 ont voulu la réformer parce qu'ils ont compris que c'était là la source des problèmes. Il y avait notamment, dans la police honorifique, avait été embauché un pédophile multicondamné qui est resté 12 ans dans la police, que l'avocat général n'a pas voulu révoquer. Enfin, c'est ce genre de déni et d'amateurisme qui a continué dans la police après coup. Ouais.
Dominique Baumard, est-ce que la police s'est intéressée au rôle de la femme d'Edouard Penel après son arrestation en 71? Je rappelle quand même, hein, Joanne Penel était à l'époque directrice de l'orphelinat de la Préférence et son mari, qui s'est avéré être un pédocriminel, hein, avait accès aux enfants. Il jouait même le rôle de Père Noël chaque fin d'année.
Non, l'enquête n'a pas vraiment porté sur la femme d'Edouard Penel. Nous, on a rencontré, juste après qu'il soit incarcéré, elle a écrit un livre avec un journaliste qu'on a pu rencontrer, essentiellement pour se défendre et dire qu'elle ne savait rien, et même lui pensait qu'elle savait tout. Mais c'est assez symptomatique de ces affaires, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé l'agresseur, on ne s'intéresse pas aux gens autour, on ne s'intéresse pas à ce qui a permis qu'il agresse ces gens, on ne se demande pas comment il a pu rentrer dans ces orphelinats, et c'est aussi ce qui s'est passé à la fin de toutes ces enquêtes, c'est-à-dire que c'est des agresseurs qui ont été condamnés, et jamais les gens qui ont permis que ça arrive, les gens qui n'ont pas protégé les enfants, une fois qu'on a trouvé l'agresseur, on se dit que c'est fini.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Alors ça nous emmène directement, Antoine Guerre, à l'affaire de l'orphelinat du Haut de la Garenne. Alors, affaire qui a éclaté en 2008 avec le témoignage d'anciens pensionnaires, puis la découverte d'ossements dans les caves de l'établissement. Finalement, c'était une noix de coco, c'était pas un crâne, c'est quoi cette histoire?
Je vous révélerai malheureusement pas on n'aura pas la fin du mot de l'histoire, on l'a cherché un peu, mais au final, c'est pas la chose qui est particulièrement intéressante. Il y a des histoires très bizarres autour de cette noix de coco ou crâne où au début, elle a du collagène, donc on est sûr que ça vient d'un ossement humain. Et puis finalement, elle revient d'Angleterre et puis la personne qui l'a trouvée ne reconnaît même pas la forme. Donc il y a des choses très bizarres dans l'enquête policière sur ça. Mais c'est surtout l'excuse qui a été trouvée par les médias locaux et par le pouvoir politique en place pour discréditer complètement l'enquête policière en disant, bah, vous voyez, c'est une noix de coco, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a plus d'histoire. Sauf qu'en fait, l'histoire qu'il y ait eu un meurtre ou deux meurtres, j'ai envie de dire, même on s'en fiche, parce que pour le coup, ça a été établi que plusieurs centaines d'enfants ont été négligés, abusés, et ça, d'un coup, c'était plus important, parce qu'il n'y avait pas eu un meurtre, sûrement.
Bien sûr. On va écouter une archive, une interview issue de votre série documentaire. Il s'agit de Stuart Siret, un ancien sénateur de Lille, puis John Christensen, un ancien conseiller fiscal du gouvernement de Jersey.
Jersey est une ville mafieuse. Quand on dit mafia, les gens pensent aux parrains. En fait, dans 98% des cas, les activités mafieuses se font sans violence. C'est le fait d'hommes et de femmes d'affaires. Ils ne cherchent ni la terreur, ni la castagne. Ils veulent juste passer inaperçus.
Toute mauvaise publicité est malvenue, qu'il s'agisse d'abus d'enfants ou autre, car cela nuit à l'image de Lille en tant que grande place financière internationale. Il y avait donc une pression. Ne parlez pas de ça. N'allez pas mettre votre nez partout, car ça aurait un effet négatif sur des clients et des entreprises à l'autre bout du monde. Circulez, il n'y a rien à voir.
Est-ce que vous, bah, tous les deux d'ailleurs, partagez cet avis, Antoine Guerre par exemple?
Oui, bien sûr. En tout cas, nous, l'idée n'a jamais été de dire que à lier complètement, c'est pas parce qu'il y a la finance qu'il y a eu ces agressions directement, mais ça a participé complètement du climat politique parce que Jersey s'est rendu complètement dépendant à la finance en tant que c'est la seule économie qui lui permet de la faire vivre, et la finance, elle a particulièrement besoin de secrets. Donc effectivement, quand il y a eu des centaines de journalistes qui ont débarqué pour ces sujets-là, on n'a pas du tout envie qu'ils creusent ces sujets-là et puis qu'ils se penchent un peu plus sur le fonctionnement systémique de l'île, comme nous on l'a fait dans la série, et qui en fait montre que bah, quand on a des conflits d'intérêts qui ne sont pas régulés, quand il n'y a pas d'imposition et que du coup il n'y a pas de service public et de la négligence sur les gens les plus fragiles comme les enfants, bah, il se passe ce genre de choses malheureusement. Donc oui, ça a eu une grande importance.
Antoine Guerre et Dominique Baumard, vous avez rencontré de nombreuses victimes dans le cadre de votre documentaire. Comment vont-elles aujourd'hui? Donnez-nous tous les deux des exemples, on a encore un petit peu de temps.
Bon, il y a beaucoup de gens, comme je vous le disais au début, qui vont pas bien et qui sont même plus là pour en parler. Il y a des gens qui sont traumatisés, des politiciens et des blogueurs qui sont au cœur de notre récit, qui ont fait en sorte que cette affaire ne soit pas étouffée, qui vivent encore dans la peur aujourd'hui. Il y a un des politiciens, le fameux Stuart Civret, qui clairement est quelqu'un de brillant, mais qui a été tellement traumatisé qu'il, je pense, a viré sur certaines phases un peu complotistes aussi. Lui, il s'est réfugié aux États-Unis il y a de ça même 2 ans, et qui croit que vraiment on peut lui en vouloir à Jersey. Donc non, il y a eu de grandes victimes. Après, on est aussi très content d'avoir donné la parole aux grands dignitaires de l'île, à des gens qui étaient en pouvoir à l'époque, parce que justement, on ne voulait pas s'arrêter à la parole que des victimes et des lanceurs d'alerte. Et c'est très intéressant d'avoir leur point de vue sur Jersey, comme disait oui. Dominique. Et à la fin, on les interroge tous sur ce qu'ils appellent le Jersey Way, qui est en gros, voilà comment ça se passe à Jersey, c'est-à-dire corruption et choses qui ne vont pas. Et là, le mot de la fin, on l'a donné à l'ancien bailli de Lille, et qui vous dit « Jersey, c'est l'intégrité, la compétence, la pondération et la compassion ». J'ai même pas besoin de commenter ça quand on vient d'écouter votre récit et notre série. C'est d'un déni et d'un mépris qui est assez alarmant, quoi.
Ouais, Dominique Bomard, d'autres victimes, qu'est-ce qu'on vous a dit ?
C'était
important, c'est le souvenir que ça laisse. Il est forcément traumatique, en plus sur un petit territoire.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc une enquête indépendante qui a été faite suite à de nombreuses accusations, notamment aux 2 policiers qui ont soulevé cette affaire. Et donc, il y a eu pendant des mois et des mois des gens qui ont défilé pour raconter leur histoire. Et nous, on a rencontré les gens qui des associations de victimes après. Et je me souviens qu'il y a notamment la présidente de l'association qui nous a dit « Moi, c'est la dernière fois que je raconte cette histoire ». Les interviews qu'on a fait avec les quelques victimes, c'est les moments les plus forts.
Et est-ce qu'il y a une demande à l'oubli, finalement ?
Il y a
quelque
une...
part, allez, c'est on n'en parle plus, on tourne la page.
C'est un peu entre les deux. Il y a d'un moment une demande de l'oubli pour certains, comme disait Dominique, sur certaines personnes, et d'autres qui veulent qu'on en parle pour que les choses changent vraiment à Jersey. Et pour le coup, les choses n'ont pas systémiquement changé à Jersey du tout. C'était des prises de position et des choix très difficiles. C'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup de témoignages écrits qui nous permettaient de faire vivre les victimes sans forcément en fait, leur refaire raconter les histoires et leur refaire parler de leurs traumas. Mais c'était important qu'on en ait 2-3 pour qu'on ressente. En fait, les gens ont besoin de ressortir qu'est-ce que ça fait, en fait, d'avoir été victime de ce genre de choses. Et de rentrer forcément en empathie et comprendre un peu plus par quoi ils sont passés.
Mais écoutez, il me reste à encourager les auditeurs et auditrices de cette émission Affaires Sensibles à regarder votre excellente série documentaire, Le Ventre de la Bête, série toujours disponible en streaming sur Canal+. Un rendez-vous est pris. Merci messieurs.
Merci.
Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, La Bête de Jersey, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.